Ok, la question de Michael. Qu'est-ce qui fait vraiment faire une kaparatavonot? C'est ça ta question, kaparatavonot, traduction, expiation des péchés. Bon, il est clair. Bon, dans la tshuva, il faut bien séparer, bien faire la nuance entre deux choses. La tshuva et la réparation. Ça veut dire, la tshuva, c'est. On prend un exemple. Quelqu'un. Il vole des paquets de bonbons à l'épicerie. Tous les jours, un bonbon. Pendant 10 ans. Et un jour, il grandit, il se rend compte, horreur, je suis un voleur. Je suis pas saoul, les doutes. Je vais voir le directeur de l'épicerie, je lui dis, monsieur l'épicier, excusez-moi. J'étais un gosse, j'étais inconscient, vraiment excusez-moi, en larmes. J'ai voulu des bonbons, je regrette infiniment, pardonnez-moi. Bon, ok, c'est bon, je te pardonne. Ah, merci, 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 il embrasse la main et il part. Et oh, je t'ai pardonné, mais il faut quand même les payer. C'est-à-dire, quand on fait un péché, d'abord on désobéit Hachem. Mais en plus, étant donné que nous avons une âme qui a un calibre duquel dépend le destin du monde, on détruit des réalités spirituelles qui sont responsables de donner le bien dans le monde. Donc il y a beaucoup de mal dans le monde à cause de nous. Beaucoup de mal se fait. On détruit beaucoup. Il faut réparer. La tshuva te fait passer de statut de rachat à statut de tzaddik. C'est-à-dire que le voleur, c'est un rachat. Maintenant, il vient voir l'épicier, puis il lui dit, ok, je t'excuse. Maintenant, je vois que tu es un type bien, je t'excuse. Donc, on est nouveaux copains, quelque part. Je savais qu'il y a un voleur. Maintenant que je sais que c'est toi, et que tu t'es dévoilé, et tu demandes en larmes pardon, je te pardonne. Je n'en veux plus à ce voleur. Le fameux voleur de bonbons que je recherchais depuis 10 ans. Maintenant, il est démasqué, et ça va. Et je lui pardonne. Donc, on passe du statut de rachat, d'impie, à celui de tzaddik, de juste, de nous aimer de nouveau. Mais, il y a aussi la facture. Il faut réparer. Pour passer de statut de rachat à tzaddik, d'impie à juste, ça, il faut la tchouva. Tu vois, dire Hachem, j'ai péché, je regrette, je prends sur moi complètement d'arrêter. Mais il faut rembourser. Des fois, on a détruit. En fonction de la gravité des péchés, on a détruit. Et ça, il faut maintenant reconstruire tout ce qu'on a détruit. Alors, quelles sont les choses qui reconstruisent? L'étude de Torah, elle construit le plus pour les hommes. Pour les femmes, la tzniout. La tzniout, faire attention aux lois de pudeur juive et rajouter encore une couche là-dessus. Parce que tout ce qu'on rajoutera ne sera pas encore suffisant par rapport à l'idéal. Et comme j'ai déjà raconté ici, je vais le répéter, des gens m'ont écrit, des femmes, qui font des péchés très graves. Elles veulent une recette, elles veulent un tikkun pour arriver au Olam Haba propre. Elle a trompé son mari, elle a avorté, elle a fait des trucs durs, d'accord? Elle veut arriver, elle fait tchouva, elle veut être propre. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je n'ai pas pris la responsabilité sur moi-même, parce que si jamais je me trompe. Et puis elle arrive là-bas, on me dit, en enfer, madame. Mais c'est Rav Shaya qui m'a dit que, mon Rav Shaya, quand il viendra, on s'occupe de lui. C'est toi, Rav Shaya, viens ici. C'est toi qui as dit à madame, comme ça, suffisait, ben tu vas en enfer à sa place. Donc j'ai déjà mon enfer déjà supporté, plus celle des autres. Donc grosse responsabilité. Donc je n'ai pas pris la responsabilité, je suis allé voir les grands kabbalistes de Jérusalem qui ont dit, ça ne sert à rien, c'est marqué pour, par exemple, c'est marqué un nombre de jeûnes qu'on doit faire pour des péchés graves, d'accord? Des centaines, des machins. C'est pas ce qu'il leur faut. Qu'elles bossent sur la tzniout. Qu'elles bossent sur la pudeur juive, les lois de pudeur. Qu'elles essaient après d'influencer d'autres personnes dans ce sens-là. Et le Rav, il m'a dit, et comme ça, elles iront à l'Amaba, et nous aussi. C'est-à-dire, si elles nous écoutent et qu'elles font le travail de pudeur, elles influencent les autres, nous aussi qu'on leur a dit ça, maintenant on ira grâce aussi, on sera aussi méritant de ce grand travail qu'elles vont faire. Donc il y a un gros boulot pour les femmes dans ce domaine. Maintenant, c'est insuffisant qu'étude de Torah et pudeur. Il faut plus. Si on peut donner la tzedaka, ça répare aussi beaucoup. L'essentiel est la chose suivante. Comme c'est que le Ramban explique tous les livres de Moussar. Il y a une parole de Chazal qui dit comme ça. Dans le temps, quelqu'un faisait un péché qui était sanctionné par le Khatat. Khatat, c'est un sacrifice qu'on doit amener si quelqu'un il a transgressé un péché qui normalement est sanctionné par le Karet, et il a sanctionné de façon shogeg, de façon involontaire. Alors pour se faire expier, il doit amener un Khatat. Alors il dit, s'il amène un Khatat, « Sra Khatat Bayado ». Chazal disent, donc ça je vais me voir béni, disent qu'il a le mérite d'amener un Khatat. Il a ce mérite, cette lumière spirituelle qui a été créée. S'il devait amener un Ola, alors il a mis le Ola, il a le mérite du Ola. C'est un autre sacrifice aussi d'expiation, etc. Et Chazal conclut, il y a une chose qui correspond à tout sacrifice réuni. Sacrifice, c'est exactement ça. C'est, une fois que tu as fait Tshuva, tu fais une chose qui répare. Le sacrifice, il avait une capacité de réparer. Hein. En hébreu, le sacrifice se dit korban. Korban de la racine karov. Karov signifie rapprocher. Les hit karev. Karev, karov, tout cela signifie rapprochement. Le péché t'éloigne d'Hachem. Donc tu veux te rapprocher, tu fais une chose qui te rapproche. Pourquoi et comment se fait-il que quand on égorge une bête au temple, ça nous rapproche? Où est le rapport? Un rapport très profond, on ne va pas en parler maintenant. En tout cas, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Chazal nous dit la clé. Nous disent, quelqu'un maintenant il sacrifie lui-même, ça équivaut à comme s'il a amené tous les sacrifices réunis. C'est quoi sacrifier lui-même? S'écraser. S'écraser. Adopter, acquérir la mida, la qualité d'âme qui s'appelle l'humilité. Zichrona livracha, de mémoire bénie. Parce qu'il n'y en a pas, des gens humbles. Des gens humbles, c'est presque introuvable. Des gens plus ou moins orgueilleux. Mais travailler là-dessus, c'est un boulot énorme. Et c'est marqué dans tous les livres de Moussard aussi, c'est la base, la source de toutes les mauvaises méthodes. La source de tout le mal provient de ça, notre ego. Le problème aujourd'hui, ça fait des problèmes terribles. Shalom Bayit. Tu mets deux égos ensemble. C'est la guerre totale. Pourquoi tu ne lèves pas le matin pour aller à la prière? L'ego, il te laisse au lit. Pourquoi tu mens quand, dire la vérité, tu vas perdre un peu ou tu as une situation pas agréable? L'ego.
Pourquoi l'ego, il laisse au lit?
Hein?
Pourquoi l'ego, il fait...
Ton ego, il te dit... une partie de toi te dit, lève-toi, il faut se lever, aller prier Hachem. Ton ego te dit, mais c'est si bon sous la couette. T'as vu un peu le temps qu'il fait dehors? L'ego.
On n'a pas le droit des fois d'être vraiment fatigué, là.
Hein?
On n'a pas le droit juste de dire que...
Fatigué, mais on se lève. Si t'avais un avion à prendre, tu le rates?
Si on a tous les jours des avions.
Donc l'avion est plus important qu'Hachem. C'est l'équation simple, hein. Pour l'avion, tu te lèves. Pour Hachem, tu te lèves pas. Donc un avion est plus important qu'Hachem. En deux mots. Donc en deux mots, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est clair qu'Hachem, qu'est-ce qui est plus important? Un avion ou Hachem? Ben Hachem, pourquoi l'avion est plus important sur le terrain? L'ego. L'ego passe avant tout. L'ego, comme a dit un rave il y a quelques mois, il a dit un truc tellement vrai, tellement terrible. Il a dit, on dit Hachem, dégage. Il y a moi. Je te dis une chose. Alors dégage-toi et fais Hachem. On ne peut pas. Je parle de niveau. Ce que je dis maintenant est simple. C'est simple. Mais qui n'est pas comme ça? Qui dit pas 100 fois par jour, Hachem, dégage! Moi d'abord!
On nous a demandé de nous réaliser.
Nous réaliser, comment on se réalise? En faisant la volonté de Dieu. C'est ça comme ça qu'on se réalise. Mais nous, on a Yetzirah qui vaut aussi. Comprenez que le Yetzirah, il vient du Yetzirah Tov. On est la même personne. On a une partie de nous qui veut se réaliser. C'est la vraie réalisation, c'est être comme Hachem. Dans le mal, se réaliser, c'est réaliser mon envie. C'est le même but, se réaliser. Se réaliser maintenant, quand on est petit, on se réalise dans les petites choses. Rester au lit, alors qu'on serait même bien plus grand d'aller prier avec Kavana. Mais c'est dur, ça nécessite un effort. Donc il y a une bataille. Le Chavot El-Bavot, le Rabbi Yonah, Girondi, d'accord, il donne 20 conditions pour la tshuva. Une des conditions, il dit, c'est casser les envies. Et dit, c'est ça amène l'humilité. Où est le rapport? Humilité, c'est sentir que je suis un rien. L'envie, c'est aussi un résultat de l'ego. Quand quelqu'un il est humble, on va contre son envie, ça ne lui fait rien. Un plat pas bon. D'accord? Si il est égoïste, c'est quelqu'un, il y a moi, je peux manger ce truc-là. S'il n'a rien à faire de lui, Il le mange. Alors Moshe Feinstein, il était en Russie. Et il habitait chez une cousine, ou je ne sais pas quoi, chez une cousine, d'accord. Elle faisait à manger tous les jours. Et je crois qu'il étudiait même là-bas, il y avait le salon, du bruit, tout ça. Il se reconcentrait, il oubliait tout. Il y avait un bruit énorme, les enfants, tout ça, il se concentrait. Sa sœur vient le visiter. Elle a mangé du plat qu'il a mangé, elle n'a pas pu manger. Une cuillère, elle n'a pas pu, c'était dégueulasse. Immangeable, infect. Et lui, il mange sans... Elle ne comprenait pas comment il pouvait manger un truc pareil. C'est les niveaux.
C'est pas de l'ego, ça va.
C'est de l'ego.
C'est du goût.
Le goût, il a du goût comme toi. Il n'est pas né amorphe de la langue, là, mon cher Feinstein. Simplement, le fait que ça n'a pas de goût, ça lui fait rien. Parce qu'il n'est pas dans cette histoire-là. Ça casse mon... Ça va contre mes envies, contre mon ego. J'en ai rien à faire. Rien à faire. Moi, je ne suis pas là.
Comment travailler sur ça?
Peut-être celle qui n'aimait pas,
ça, non? Comment travailler sur ça?
Peut-être celle qui n'aimait pas, ça.
Hein? Peut-être. Alors, Moshe Feinstein, tu parles maintenant. C'est une autre histoire. Il s'appelait Moshe, d'accord? Il priait un peu, et puis il priait. Il y a un jeune qui a demandé à son copain Moshe, what time is it? C'était en Amérique. Quelle heure il est, Moshe? Alors, il dit, 9h10. Il dit, bientôt, je dis, quoi d'arabe, je ne veux pas parler à vous, je vais parler à Moshe, là, mon copain, pas à vous. Moi aussi, je m'appelle Moshe. Le Gdol adore, le grand de la génération. Le grand de la génération. Le Rav Shach. Il a dit au Rav Chazan, Rav Shach, il a dit, je ne comprends pas. Shulchan Aruch, on a étudié Shulchan Aruch. On a étudié 5, 6 fois, bien, Beyoud, comme on a bien étudié. 200 fois. Alors moi j'ai fait 200 fois, j'ai fait Shulchan Aruch. Chaque Shabbat finissait tout Maseret Shabbat. Maseret Shabbat. Je ne vais pas vous décourager si vous entendez des trucs pareils. C'est énorme, il était énorme, énorme en Torah. C'est un grand monsieur. On lui dit, Moshe, quelle heure il est? On parle à son copain, Moshe, quelle heure il est? Et lui, il te répond tout ça. Ça, c'est de la nava. Ça, c'est de l'humilité. Comment fait pour y arriver? Je pose la question à Rabbi Abba Shaoul. Il m'a répondu, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. C'est une bonne réponse. D'accord? Qui sommes-nous pour savoir c'est quoi la nava? Alors, c'est marqué dans les livres. Tout le monde sait comment c'est. Mais il faut travailler, c'est difficile. Travailler sur les envies, travailler dans la relation avec l'autre. Il y a des moments où c'est dur. Ah oui, la fenêtre fermée, toi tu l'as fait la fenêtre ouverte. Écrase-toi. C'est dur. On touche le vrai ego, c'est dur. Ça, c'est le travail de la tchouva. Ça répare tout.
Et t'as une tape saka, c'est
bon. T'as une tape saka? C'est déconseillé.
C'est plus simple.
Hein?
De quoi?
Alors, les grands mekoubalim à qui j'ai parlé, ils ont dit pas de ta'anit. Parce que les gens, ils vont comprendre mal, ils vont croire. Tani, c'est les jeunes, d'accord? Ils vont croire que la tchouva, c'est ça. Et c'est faux. C'est pas ça, la tchouva. La tchouva, c'est changer. Devenir quelqu'un de bien. Quelqu'un devenir comme Hachem, il veut. C'est ça, la tchouva. Il dit, après qu'on a fait tout ça et qu'on a vraiment changé, alors on peut peaufiner. C'est 1 à 2% de la tchouva, les Tahanit. 1 ou 2%.
Les Zinoud, ça fait devenir.
Tu as compris?
Les Zinoud ne devait pas devenir forcément quelqu'un de bien.
Tu sais quel boulot une femme doit faire pour faire la Zinoud? Combien c'est dur?
C'est facile de Zinoud à l'extérieur, mais après l'intérieur, ça ne peut rien dire.
Zinoud, c'est tout. Quelqu'un qui bosse la Zinoud, surtout, c'est un boulot énorme. Il n'y a pas de plus grand petit coup. C'est énorme. C'est
énorme. Je suis d'accord, mais de la même façon que la Tahanit, ça ne va pas forcément rendre quelqu'un de bien, alors peut-être la Zinoud aussi.
Non, parce que la Tahanit, tu travailles sur des choses qui sont relativement simples. Sur l'envie de manger, tu t'habitues après, puis ça va, puis tu ne manges pas. Ok. Je ne dis pas que c'est rien. Ça a une valeur. Mais c'est facile. C'est beaucoup plus dur de changer des mauvais traits de caractère. Et chez la femme, le fait de vouloir être belle, d'accord? Être belle. Le mot être belle, il a plusieurs degrés, d'accord? Une femme qui n'est pas en mini-jupe, pour elle, elle est moche, d'accord? Être belle, c'est être en mini-jupe, c'est ça la beauté chez elle, d'accord? Je vais expliquer, non, c'est pas ça la beauté. Ça, pour nous, s'appelle la pritzkou, ça s'appelle de l'impudeur. Donc, elle traduit impudeur par beauté ou féminité. Ils ont des sortes de mots à la place pour faire parler je suis impudique, d'accord? Je suis féminine, d'accord? C'est la même chose. Ça demande un travail énorme. Énorme, parce que la femme... Et la nature, comme l'homme est la nature, vous connaissez le tiers des hommes de regarder les femmes, ben elle a une nature d'être, elle aime être belle. Elle ne va jamais te dire, elle aime être regardée par les hommes, à moins que ce soit vraiment une racaille de racaille. Elle ne dira jamais comme ça. Mais être belle. Être belle pour être belle, elle, pour elle, d'accord, pour elle. Belle, d'accord, mais c'est ça, c'est-à-dire paraître bien. paraître bien.
Il dit qu'il faut casser pour l'ego, il faut casser cette avot, se travailler, tout ça. Mais le fond du problème, pourquoi on n'arrive pas à se casser cette avot, c'est quoi? C'est la tsanout, c'est la finantie, c'est quoi le fond? Ça, c'est des tozaot, c'est des choses qui en découlent.
Le fond, c'est, j'en ai parlé dernièrement, je vais en reparler ici. On veut exister. Hachem, son nom, c'est-à-dire son essence, c'est être. Aya Hoveveye, Yutkevav, c'est une contraction de celui qui était et sera être. Nous, ayant reçu de Hachem une âme, on veut être aussi. Le vrai être passe dans l'abnégation de notre ego et se branche avec Hachem. Ça, c'est le vrai être. Mais quand on n'a pas compris ça, on ne vit pas ainsi, on va recevoir aussi un désir d'être. Le désir d'être au niveau du mal, il est dans l'ego. Donc, quelque part, quand je ne reçois pas ce que j'ai envie comme envie, j'ai une envie maintenant, d'accord, je ressens un moins-être. Quand je veux que la fenêtre soit ouverte, quand je veux dormir, quelqu'un ronfle, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, quand je veux avoir raison, et c'est lui qui a raison, et pour finir, je dois me plier, je sens un moins-être. Et ça, c'est une déformation due au mal, au niveau de notre petitesse. C'est ça la base des choses. Alors, il faut comprendre que tu n'as pas besoin d'avoir raison pour être. Tu n'as pas besoin de manger ce truc pour être. Ce n'est pas ça qui va t'aider à être. C'est un mensonge. Être, au contraire, quand tu vas être en abnégation totale et tu vas te brancher au reçu en HM, là, tu vas être vraiment. Tu vas faire une abnégation de toi par rapport à la volonté divine. Alors là, tu es. Là, tu es vraiment.
Parce que c'est une défèche, en fait. Donner à manger, c'est une défèche.
Donc, pour parler plus au niveau des parties, exactement, on a une partie basse de notre âme qui s'appelle le Nefesh, Ruach Neshama. Quand le Nefesh est subordonné à Neshama, on va vraiment être. Neshama, c'est l'éclairage divin. Mais ça, il faut le faire. Tant qu'on ne le fait pas, le Nefesh, il sent qu'il est comment, quand il réalise ses envies. Et le plus dur, ce n'est pas que retenir ses envies. C'est quand c'est par rapport à un autre. Alors, Ben Sion, il donne un très bon exemple. Il dit, quelqu'un... Il est éleveur de bovins. Chaque vache vaut, on va dire, 5000 euros. Quand ils sont en Israël, il faut vendre du kasher. Il va à l'abattoir, on fait la shrita, on vérifie le poumon, il y a un trou dans le poumon. Alors, ben, dit, désolé mon vieux, taref, tampon vert, d'accord. Tampon bleu, c'est kasher, tampon vert, on est en Israël, c'est taref. Taref, c'est-à-dire, t'as perdu 5000 euros. Tu peux la vendre comme ça aux d'autres personnes qui la mangeront. Ici, il y a une population non juive qui mange taref. Ok, mais 1000 euros à la place de 5000. Tu appelles 4 sèches, 4000 euros. Qu'est-ce qu'il dit, l'éleveur de bétail?
Mais non.
Il dit capara. Capara ta bonne note. Ça va. Allez, la suivante. Il y a, tout à coup, il rentre à la maison, ça coule de l'eau de chez le voisin. On creuse. On voit, c'est son tuyau, à lui, qui passe là-haut. Mais c'est dans le domaine du voisin. C'est mon tuyau ou ton tuyau? Maintenant, il faut défoncer tout le carrelage du voisin, il faut payer 4000 euros. Lui dit, ben, c'est chez le voisin, c'est à lui de payer, c'est pas mon tuyau. Lui dit, ouais, c'est vrai que ça passe par chez moi, mais c'est pour aller chez lui, c'est son tuyau. Bagarre. Business. Il a acheté, il a vendu, n'importe quoi. Tu vois, les procès sont pleins de cela. Il y a un procès, Din Torah. 4000 euros, il s'y prépare des mois à l'avance, il n'endort pas la nuit. Au procès, il ment. Ou si de la vérité, il cache par omission. Et il réplique, et il hurle, et il insulte. Et à la fin, le Bedin dit, t'as perdu. Il sort, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, capara. Il dit, c'est un menteur, il a menti, il a dit des histoires, et puis le Bédine, ils n'ont rien compris, et puis c'est pas un bon Bédine, et ça, il ne peut pas accepter. Pourquoi? Quand ça va direct HM, ok, j'accepte. De l'autre, la concurrence avec l'autre, que je perds 4000 euros, je peux supporter, mais que l'autre, il ait eu raison, et que je perds à cause de lui 4000 euros, insupportable. C'est ça se casser, dans la relation avec l'autre.
Entre mari et femme, il n'y a que ça. Alors.
Que ça.
C'est beau en théorie. Là. C'est totalement vrai. Mais en pratique, c'est un
du moussard. Sans moussard, on ne peut rien faire. Du moussard là-dessus. Du moussard, jour et nuit. On prend un projet, on regarde. qu'est-ce que je peux arranger, qu'est-ce que je peux faire, voilà.
Parce que comment on existe? On existe à travers l'autre. Alors si on,
quand on est petit,
si on s'annule, on s'annule pour l'autre, alors on a l'impression de plus exister.
C'est une fausse impression. Faut bien comprendre d'abord la théorie.
Oui, c'est ça. J'ai compris la théorie. Mais c'est, on peut penser à, en pratique comment on peut l'appliquer, quoi.
Du mousseur là-dessus, lire beaucoup sur les grands discours des exemples et les chazals qui parlent de cela sans cesse. Au bout d'un moment, ça rentre. Et quand on se trouve en situation de confrontation, alors on sait ce qu'il faut faire. On n'arrive pas toujours, mais lentement. Il n'y a pas de grande révolution. Changer une midas, c'est un travail difficile qui se fait à pas de fourmi. Mais si on ne commence pas, on ne finira jamais. Il faut commencer à travailler. La colère.
On a dit qu'on ne peut jamais changer une midas, on la met
c'est
de côté.
Pas vrai.
On la met de côté. On la met de côté.
Mettons-la de côté, d'accord ? C'est déjà bien. Au moins, dans ton comportement, tu comme quand il se met en colère, au moins, ça reste à l'intérieur, il ne dit rien, il se calme, et voilà, c'est déjà mieux. Plutôt que la salive qui déborde, d'accord ? Bon. Et lentement, elle arrivera aussi à l'état kenota, à la capare. J'ai dit, la nava, je sais, c'est de mémoire bénie, ça n'existe pas aujourd'hui, la nava. Mais au moins qu'on limite la casse, qu'il y ait moins d'ego.
Pourquoi ça répare ça, la faute?
Ça répare tout parce que c'est la source de la faute. L'ego, c'est la source de la faute. Donc tu répares la source. Pas que tu fais des choses qui sont.
Ce qui est écrit dans les Charatikunim,
tout
ça. Les Charatikunim, etc.
Rabbi Noiri, tous les jeunes qui disent, sachez-le, c'est à côté. C'est à côté. Ça, lui, il comprend que tu as déjà tous les bouquins de Moussa. Donc c'est évident que tu as fait le Rambam qui dit, voilà, la Hanava, le Rambam, il dit, c'est le Galout, Mechaber Tavon, fait partir en Galout.
Ça ne répare pas vraiment, alors, ça.
Ça répare, mais c'est insuffisant. C'est l'accessoire. C'est comme tu dis, tu achètes une voiture maintenant, d'accord, il faut un moteur, il faut un machin, il faut aussi un volant.
Si, par exemple, il a fait Tchouva, j'ai vu, par exemple, je crois, la Shonara, c'est par exemple 67, plus Tani Libo. Si le bonhomme, il fait tchouva, il fait, on va dire, Tani Tafsaka, on va arrondir 65 600, on va dire 67 000 d'affilée, ça, on va arrondir. Il n'a pas réparé 1000 lachon d'arrêt, il faut qu'il répare autre chose.
C'est comme je t'ai dit. Il n'y a pas de truc. Pas des trucs. Hachem, il est droit. Il veut que tu sois un type bien. Ça peut, t'étais dans le mal, il devient bien. T'es dans le mal, et il reste dans le mal. Il reste comme il est, avec ses tavotes, avec son ego, avec son machin. Et il fait des millions de jeunes. Il y a un, dans le Gan de Vilna. Il faisait toutes les semaines Tani Tafsaka. C'est-à-dire, il jeûnait non-stop, sans manger ni boire, ni nuit, ni la nuit, ni le jour, depuis Motsé Shabbat jusqu'à vendredi soir d'après. Et chaque Lel Shabbat, nuit du Shabbat, causait le Kiddush. Toute la communauté, beaucoup, des dizaines venaient, c'est fait, revenu une bracha. Le type, après 6 jours de jeûne non-stop, c'est un super grand. D'abord, c'est un grand sadique. En plus, maintenant,
c'est pas ça.
On tient. Parfait. Ni toi, ni moi. Non, il y a des grands qui tenaient. Bah, c'est avant 13 ans, il l'a fait déjà. Rav Shua, le grand-père de la femme de la révolution, Rav Shua Charabani, il faisait ça souvent. Au Maroc, beaucoup de gens faisaient ça. Donc, il fait ça. Attends, il y en a un à Vilna, c'est ça, près du Gan de Vilna. Et tous les vendredis soirs, donc, il y avait beaucoup de gens qui venaient se faire venir. Il a fini, maintenant c'est le moment où toute la Kedusha vient, c'est le meilleur moment, il a fini, tac. Un jour, le Gan de Vilna lui a envoyé un message, lui dit, ce vendredi soir, ne bénis personne. Tous les honneurs qu'on te fait, en venant prendre bénédiction chez toi, le vendredi soir, ça annule tout ce que tu as fait. Tout ce que tu fais maintenant, c'est zéro. Toute ta vie, c'est zéro. Cette fois, ne reçois personne, peut-être parce que tu dois mourir la semaine prochaine, c'est la dernière fois où tu le feras, au moins tu vas avoir la mabab avec un petit quelque chose. Triple-là, il a fait des derniers ça toutes les semaines. Ni toi, ni moi, ni Arabe Benoît, c'est énorme, d'accord. Néanmoins, l'essentiel, il n'a pas réparé, l'ego, les honneurs, le machin.
C'était par rapport à ça ou par rapport au Shulchan Aruch?
Je peux comprendre ta question.
C'était par rapport à son ego ou parce que du fait qu'il s'en est fait une gloire alors...
C'est pas fait une gloire, les gens venaient. C'est pas interdit de venir faire des barchotes à tout le monde.
Mais ça n'est pas vraiment caché qu'il faisait
ça. Ça n'est pas trop caché. Ça s'est su. Ça se sait. Comment moi je sais sur le Rav Shor, les gens savent au bout d'un moment.
Mais là, il y a une limite.
Hein?
Je
vu dans le Shulchan Aruch, il dit celui qui s'en fait une gloire,
il est puni pour ça. Ils ne sont pas fait une gloire. Ils ne sont pas fait une gloire. Mais néanmoins, les gens venaient. Donc, est-ce que je dis maintenant, c'est logique. Il n'y a pas de truc. Faire des taniot, c'est un truc. C'est un truc qui marche. Mais c'est un truc. D'accord ? Donc, ça marche. Ou 2% du problème. Une fois que tu as tout réparé, vraiment, tu es bien comme il faut, faire ça en plus, c'est un peaufinage. C'est bien. C'est le dernier polish sur la voiture. C'est beau. C'est mieux une voiture neuve avec le polish. Tu rentres avec tout sale. Mais s'il n'y a plus de moteur, tu fais un polish sur un truc qui n'a pas de moteur, à quoi ça sert ? L'essentiel, c'est ça. Que tu sois aimé par les gens. Celui qui a un vétan, celui qui est humble, il est aimé par les gens.
Comment c'est qu'on a fait ça ? Après la mort, quand on est mort ?
Comment c'est qu'on a atteint l'humilité ?
Enfin, au moins, quand on y touche.
C'est un peu
rare, ça. Parce que finalement, si on le sait, c'est qu'on ne l'est pas.
L'humilité, c'est aussi réellement connaître ses capacités aussi. Parce que par exemple, sur l'exemple que vous donnez, genre il y a une personne qui ouvre la fenêtre ou quoi que ce soit, et que genre je dois me taire quelque part. Mais si entre guillemets, donc, je suis intelligent, par exemple, il fait froid, et qu'il risque, on va se sentir froid, peut-être on va être malade derrière, je vais pas du coup m'écraser.
Couvre-toi.
Parce que la personne.
Couvre-toi.
On va dire si Dieu veut justement qu'on soit bien ou quoi que ce soit, c'est plus de l'éduquer ou de dire bah attends, enfin, peut-être qu'il serait bien de fermer la fenêtre parce qu'on va être.
Quand tu traverses le couloir, puis tu vois que tu es dans une autre chambre, quelqu'un ouvre la fenêtre, tu vas l'éduquer ?
Va
l'éduquer, lui dis écoute, t'as laissé pour trouver. Peut-être c'est pas bien, j'en vois tomber malade. Tu vas pas l'éduquer.
Ça n'arrive pas vraiment, c'est pas une situation.
Donc, c'est pour toi. C'est pour l'éduquer, c'est pour toi. Tu vas l'éduquer, c'est pas pour l'éduquer, c'est pour toi. Si c'est pour l'éduquer, chaque fois que tu vois un type maintenant qui a ouvert la fenêtre dans sa chambre, fais-lui un cours d'éducation. C'est l'hiver, tout, vous allez avoir froid, c'est pas conseillé. Ça n'a rien à faire parce que ça te touche pas. Là, ça te touche. Ça te touche. Donc tu vas l'éduquer.
Vous allez parler aux gens qui sont plus proches que vous, vous allez parler avec
la chambre en face. La chambre en face, ils ont la fenêtre ouverte.
Ça, c'est leur problème.
Mais si tu te dis maintenant que je dois l'éduquer, le type maintenant il a un problème.
La personne avec qui vous êtes confronté, enfin dans la situation.
Donc tu vas pas maintenant l'éduquer parce que tu vas pas l'éduquer pour l'éduquer. Tu vas l'éduquer parce que toi maintenant t'es dans la mouise, t'es embêté. Ça te fait un problème.
Je suis embêté, mais...
Il te touche.
Je prends en compte l'autre pour que lui aussi, quelque part, il soit pas embêté. Peut-être que lui, il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Il le fait comme ça, machinalement, et qu'en réalité...
Donc tu veux maintenant les taquer de lui. C'est pas pour toi que tu fais, c'est pour lui. N'est-ce pas ? C'est pour ça que tu me dis. C'est pas pour toi, c'est pour lui.
C'est pour nous.
Pour nous ?
Ouais.
Ça sera toujours pour nous.
Ça sera toujours pour nous. Quelque part, acheter, c'est la connaissance. C'est d'avoir la connaissance. Si on n'échange pas là-dessus, quelque part, où est le truc, quoi. Je vais me rabaisser tout le temps alors que je sais que l'autre est dans une totale absurdité dans ce qu'il dit.
Roth Al-Babot, il m'a posé la question, comment c'est qu'on est arrivé à ça ? Et il te dit, comme le chassid qui était une fois dans un bateau et un matelot. Lui, il dormait sur le pont du bateau. Un matelot a uriné sur lui. Il a dit, ça m'a rien fait. Là, on est arrivé à la Hanava. D'accord ?
Si maintenant, on va dire cet exemple-là, si maintenant la personne juste devant lui, elle le fait quoi que ça, de manière volontaire.
Ben,
c'est pas la même chose.
Non, mais dans la vie de tous les jours,
c'est ce que je veux dire. Là, c'est tombé comme ça, mais jamais quelque part, ça devait vous arriver. Mais maintenant, si la situation, là, vous allez, la personne va faire comme ça et vous allez rien dire. Non, vous allez essayer de l'éduquer, vous allez dire quelque chose.
Moi, comment je vais lui dire ? Moi, je ne suis pas un vétan. Quelqu'un de un vétan, il se tait. C'est les degrés qui nous conviennent.
Parce que comment avoir
une
situation le risque peut-être vis-à-vis de ça, c'est qu'en fait, à chaque fois, vous risquez de vous rabaisser, en fait. C'est-à-dire que de vous considérer entre guillemets comme rien, mais c'est pas non plus ce qu'on vous demande. Pour être quelqu'un, il faut quand même avoir un minimum de
respect
de soi, quoi. C'est-à-dire que tu vas faire les choses. Sinon,
rien.
Non, je suis incapable.
Rien de rien, comme elle disait.
Qu'est-ce que je vais faire ? Ça sert à rien, je suis incapable.
Non, faut pas tomber non plus dans la déprime. Tu es tout à fait capable, tu sais qui tu es. Mais tu es rien. Qui suis-je ?
Je suis à l'image d'un
chef
quand même.
Ouais, ok. Tout ce que je suis maintenant, c'est un chef qui me l'a donné. J'ai rien fait pour.
Justement, je remercie,
mais j'ai rien fait pour. Moshe Rabbeinu, le plus grand des hommes.
Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu.
Il écrit, Venachnouma. Qu'est-ce que nous sommes ? Et il écrit « Je suis le plus humble des hommes ». Il écrit « Il n'y a pas d'homme plus humble que Moshe Rabbeinu ». Donc il sait qui il est.
Il savait les capacités qu'il avait quand même.
Il savait. Mais alors comment il peut être humble s'il sait qu'il est si... Comment il peut dire qu'il est humble alors qu'il sait qu'il est si grand ? Il écrit « À la fin de la Torah, il n'y a pas eu de prophète aussi grand dans Israël que Moshe ». Hein, c'est lui qui écrit ça. Ok. Elle écrit aussi je suis le plus humble.
Oui, et malgré tout, il a quand même des actions qu'on pourrait considérer pas comme
un Donc, c'est quoi l'humilité ? C'est pas dire je suis un nul, je suis un grand, je suis énorme, je suis le top. Mais, moi, j'ai rien fait pour. Tout vient de Dieu, et moi, en tant que moi, je suis le nul des nuls. Nul des nuls. Et si quelqu'un avait reçu du ciel ce que moi j'ai reçu, il aurait fait 10 fois plus.
Les simanim dans la vie de tous les jours.
Et je veux plus de trucs plus pratiques.
Je ne pas qu'on va mieux.
Ouais, t'uriner sur la tête.
Attends,
il pose une question importante, je vais essayer de répondre. Des exercices, maintenant, parlons Tarsès sur le terrain. Ouais. Bon, d'abord, c'est clair que tous ceux qui sont. Tu vois, quoi qu'à la yeshiva, il y a une confrontation avec quelqu'un, c'est écrasé. Ça, c'est l'ABC. Ensuite, ça passera au mariage. C'est écrasé aussi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'écraser toujours. Non, parce que sinon tu deviens, c'est important que la femme elle veut aussi un mari, elle devra dire quand il y a la tension, là il s'écrase et après elle dit maintenant on va faire ce qui est juste, qu'est-ce qui est juste, ça, ça et ça, il donne son avis, il le dit et si c'est nécessaire il impose et terminé, mais il le fait pas parce que l'ego lui dicte cela, parce qu'il faut faire comme ça, c'est une nuance très grande et il s'énerve pas parce que des fois qu'on va pas, le conjoint va pas comme il faut aller, on s'énerve. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Elle ne comprend pas. Tu t'énerves. Si tu t'énerves, ce n'est pas tahor, ce n'est pas pur, c'est toi. Donc jamais s'énerver. Tout prendre avec calme. Parler gentiment aux gens. Lévataire. Lévataire, comment on dit en français, lévataire ?
S'annuler.
Hein ? S'écraser. Voilà, c'est un programme. Allez, va y aller.
Est-ce que c'est problématique ? Parce que maintenant qu'on a fait le cours là. Si on le fait en sortant, c'est calculé aussi.
Calcul.
Calcul. C'est calculé ?
C'est très bien. C'est très très bien. Très très bien. Fais calculer, super calculer, joue là, tu verras. C'est très bon. C'est comme ça qu'on peut. Mais torche les chemins, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais torche les chemins, les chemins. En faisant de façon désintéressée. Après, ça devient désintéressé. Ça peut, on peut faire ça autrement.
Mais c'est où la limite que, il faut s'écraser, il ne faut pas s'écraser. La limite.
Parce que
là, vous
avez
donné
le
coup de la fenêtre.
C'est un extrémisme.
Je l'ai lu, hein, j'ai lu devant quelqu'un, j'ai lu dernièrement dans mon bureau. Il y a une Gemara, Rabbi Yossé, dans Shabbat page 118. Rabbi Yossé, c'est un des grands rabbins qui a connu le peuple d'Israël. Chaque fois que Rabbi Yossé dans la Gemara dit une chose, l'Allah est comme lui. On ne discute pas.
Il y a Rabba.
Bon, il y en a d'autres aussi. Rabbi Yossi, Rabbi Yossi ben Khalaf, c'est un Tana. Stam Rabbi Yossi, Rabbi Yossi ben Khalaf. Il dit, l'Olam, jamais, je refusais de faire ce que disaient mes amis. Il y a un exemple, je sais que je ne suis pas Kohen. Les amis me disent, monte faire Birkat Kohanim. J'y vais. T'imagines, hein, quelqu'un va te voir, il dit, va faire Birkat Kohanim, Israël. Pas Cohen. Vas-y, ils arrivent. Mais ça va, ça laisse moi tranquille. Il va faire comme.
On n'a pas le droit, non ?
Oui. Tosot dit qu'est-ce qu'il y a ? Oui, non. Il fait semblant.
Mais même dans ce cas-là, il y a limite. Si par exemple la personne elle me dit.
Une avéra. Tu vois une avéra ?
Une avéra ou par exemple 2 mois d'argent ou. Mais pas pour un sens vraiment. Hein, ou par exemple...
Oui, il faut faire ce qui est juste, d'accord. Mais quand. C'est rare que ça touche, que c'est juste. D'habitude, ça touche notre ego. Notre ego, voilà.
Je sais pas faire Shaliar Tzibour. Un jour, on m'a demandé comme ça, dans une petite choule, vas-y, monte, Berhabon.
C'est une erreur.
Mais parce que
c'est une erreur d'être Shaliar Tzibour. Tu peux pas être Shaliar Tzibour, vu que tu ne sais pas.
Voilà.
Mais alors, ok, là, c'est bon. T'as bien fait.
Et, selon vous, j'aurais dû monter.
Non. Non, parce que là-bas, t'as trop fait... si c'est un truc qui concerne vraiment à la Torah, on n'est pas de faire une avéra. Mange du porc. Oui. Non. Non. Ouais. Mais écrase-toi. Fais pas comme ton ta réaction provenant de ton ego, elle te dit non, il y a moi. Et moi, je dis non. Il n'y a pas moi. C'est qui moi ? Mais je vous dis, je parle de niveau qui n'existe pas. C'est, on est en 40 milieux, mais c'est bien. Le seul moyen, lire du Moussard. Lire du Moussard là-dedans, il y a des exemples dans le Moussard. On te donne des exemples, on te donne des trucs. Et lentement, tu commences à voir un peu. À...
C'est le
un
but.
Peu, lentement.
C'est le but. Raph.
Le but, c'est un but énorme. C'est tu gagnes tout, tu gagnes tout.
Ouais, mais c'est un but.
La Torah, c'est marqué que la Torah ne vient que chez les gens qui sont comme l'eau, elle descend vers le bas. De même, la Torah qui est comparée à l'eau, elle vient que chez les gens qui sont dans le bas. Qui se copain et dresse, dit Razal. Comme le seuil de la porte qui est écrasé par tout le monde. C'est dans ces gens-là que trouve la Rav Benzion, il attend le bus. Il attend le bus. Rav Benzion Abba Shaoul, que c'est Gdol Hador. On doit finir rapidement. Le bus s'arrête, le conducteur lui lance une serviette, nettoie-moi le pare-brise. Il monte sur le pare-brise, il se met à nettoyer le pare-brise. Moi, j'aurais pas fait ça. Je lui dis, ça va pas, mon vieux, non, mais je suis ton chiffrage, je suis ton sous-fifre, dégage. Il monte, Gdol Hador. Il monte et il fait ça.
C'est le niveau qu'ils ont,
hein,
c'est qui a raconté cette histoire.
C'est connu.
Mais le niveau qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont appris sur la Nava, et quand il vient, il lui fait comme ça, il dit ah, une épreuve que je vais pouvoir surmonter.
Voilà, fais-le.
Super.
Fais-le.
Moi, j'ai pas toute la Torah qu'ils ont, eux.
Alors, tu dis, vu qu'eux, ils sont grands, moi, je suis tout petit, donc je reste tordu. Non, commence à ton travail. Commence ton travail. Bah, ou, Hadonai, comme on va, mais.